Chapitre 3. Je me rends compte que j'écris en mêlant des temps, le passé simple, le présent, le passé composé, l'imparfait, dont les règles du récit d'ordinaire n'autorisent pas la cohabitation. Lorsque je filme, je ne me pose pas cette question. Je laisse glisser les plans, un à un, sans jamais recourir à des retours en arrière, pas plus qu'à des bonds en avant. Très tôt, le cinéma m'a paru un art tendu vers le devenir des personnages, des situations, des décors, des nuages poussés par le vent. J'ai toujours considéré que la chirurgie opérée sur le temps, à l'exception des ellipses qui ne sont en somme que des compressions, des retraits de moments vides pour la dramaturgie, où paradoxalement, en coupant du temps, on en fabrique, n'était pas morale. J'emploie parfois de grands mots. Qu'un cinéaste ne pouvait se prévaloir de ce droit qu'aucun humain ne possède, même si beaucoup en rêvent, pouvoir revenir dans des instants perdus du passé, ou goûter par avance ce que sera l'avenir. La littérature, en revanche, est un cabri que ne retient aucun licol. Elle peut tout et c'est le plus libre des arts. Eugène m'avait offert l'invention de Morel, d'Adolfo Bioy Casares. Cela devrait te plaire. Cela m'avait plu. Eugène était un producteur qui lisait des livres. Il n'y en a guère. Il avait le talent de me mettre sur des pistes par livres interposés quand je travaillais sur un sujet, même si les récits et romans qu'il m'indiquait ne me paraissait pas, après la première lecture, avoir de rapport direct avec le film que j'essayais d'écrire. La fameuse invention du roman de cet auteur argentin consiste en une machine qui permet d'enregistrer des moments de la vie et de les faire se rejouer à l'identique aussi aisément qu'en faisant tourner un disque. Le héros a donc trouvé le moyen de s'affranchir du temps, tout du moins de certains fragments prélevés dans son écoulement inexorable et promis à la destruction qu'il opère sur toute chose, comme l'a écrit Ovide il y a plus de 2000 ans. Le scénario qui m'occupait alors prenait son assise dans un événement autobiographique, le suicide d'un camarade d'adolescence, Jean-Christophe, qui s'était donné la mort à 19 ans, ne supportant pas que celle qu'il aimait ne l'aima pas. Aujourd'hui encore, en évoquant son souvenir, ses traits apparaissent dans ma mémoire avec un dessin d'une exactitude incomparable. Alors que je peine à me souvenir des visages de certaines de mes connaissances, pour peu que je ne les fréquente plus pendant quelques mois. Jean-Christophe n'était pas à proprement parler un ami intime, mais durant 6 ans, nous avions partagé le même quotidien ennuyeux d'un internat de province, situé en Lorraine, à une 20aine de kilomètres de la petite ville où je suis né. Ma mère m'y avait placé en raison de la qualité de l'enseignement qu'on y prodiguait. Elle espérait pour moi une carrière qui me fit sortir du milieu paysan et ouvrier dans lequel notre famille avait vécu depuis des siècles. Sur ce point, elle n'a pas fait un mauvais pari. Je me souviens que Jean-Christophe fumait des gitanes. Il avait commencé tôt, en classe de 4e, il me semble. Hiver comme été, il ne portait qu'une simple chemise blanche, ouverte sur la poitrine. Il paraissait ne jamais avoir froid. Ses yeux regardaient toujours au-delà du visage de son interlocuteur, au-delà du visage du professeur qu'il interrogeait, au-delà de l'horizon lors des promenades du mercredi après-midi, au-delà du temps lui-même, peut-être. La dernière fois que j'ai parlé à Jean-Christophe, c'était une nuit dans la salle d'eau contiguë à notre dortoir. Nous avions l'habitude de nous retrouver à quelques-uns pour discuter philosophie, musique et fumer des cigarettes par la fenêtre ouverte sur le noir. Nous étions en terminale. Cette nuit-là, je me suis disputé avec lui, je ne sais plus à quel sujet. Je me souviens que j'ai eu des propos durs à son encontre, que j'ai cherché à l'humilier par le langage que je maniais plus aisément que mon camarade, dont les lèvres un peu épaisses ne paraissaient jamais vouloir tout à fait se défaire des mots qu'elle prononçait. Nous étions à la fin de l'année. Les épreuves du baccalauréat commençaient quelques jours plus tard. Nous ne nous sommes plus jamais adressé la parole. Après l'altercation nocturne, je me suis senti gêné et honteux vis-à-vis de lui, mais je n'ai rien fait pour le lui dire. Nous avons quitté le lycée, avons tenté chacun de notre côté quelques pas dans une vie où l'autre n'avait plus sa place. Il ne me manquait pas, et je crois pouvoir dire sans mentir que je ne devais pas lui manquer non plus. Un an plus tard, une connaissance commune, croisée dans une rue de Nancy, où je m'étais inscrit à l'université, m'apprit le suicide de Jean-Christophe. Je ne sais pas si le souvenir de sa mort est présent en moi, avec une constance, un chagrin et une netteté qui ne faiblissent pas, parce que je n'ai pu me faire pardonner de lui avoir fait de la peine, ou parce que son geste définitif était aussi tout à fait inutile. La jeune fille pour laquelle il s'est donné la mort ne l'a jamais su. Dire qu'elle n'en valait pas la peine est une évidence. Et ce n'est pas de sa valeur personnelle dont je parle, mais du lien entre son existence sur cette terre et le retrait d'une vie de cette même terre qu'elle a involontairement provoquée. À la fin de la partie « Un amour de Swann », dans le premier volume de « La recherche du temps perdu », Proust fait dire à Swann à propos d'Odette « Dire que j'ai gâché des années de ma vie, que j'ai voulu mourir, que j'ai eu mon plus grand amour pour une femme qui ne me plaisait pas, qui n'était pas mon genre. » Je n'ai jamais pu lire ces lignes sans songer à Jean-Christophe, sans revoir ses yeux vagues et lointains, ses doigts autour de sa cigarette, sa silhouette blanche et maigre dans la cour du lycée battue par le vent d'hiver, et la salle d'eau dans laquelle avait eu lieu notre dispute. Il me semble d'ailleurs que cette nuit-là, quand je suis sorti de cette salle, il y avait aussi un peu d'eau dans les yeux de Jean-Christophe, et mon cœur relevait de la définition que Pascal donne du cœur des hommes et que j'ai lu plus tard, il était creux et plein d'ordures. J'ai longtemps cherché comment rendre compte de cela dans un film, tout à la fois du souvenir de mon ami, ou plutôt de la prégnance de ce souvenir, la façon dont il avait en quelque sorte décidé de ma vie, et de la phrase désabusée de Swann qui constatait un gâchis, mais d'un Swann vivant qui a choisi la vie et repoussé la tentation de la mort. Le remords, le temps, la mort, le souvenir ne sont que les différents masques d'une expérience qui n'a pas de nom dans la langue et qu'on pourrait au plus simple désigner par l'expression « usage de la vie ». Quand on y pense, toute notre existence tient dans l'expérimentation que nous en faisons. Nous ne cessons de nous construire face à l'écoulement du temps, inventant des stratagèmes, des machines, des sentiments, des leurres, pour essayer de nous jouer un peu de lui, de le trahir, de le redoubler, de l'étendre, ou de l'accélérer, de le suspendre, ou de le dissoudre comme un sucre au fond d'une tasse. Eugène m'avait écouté, les pieds sur son bureau, tout en buvant un thé et en fumant une de ses cravennes A, sans filtre, qu'il allumait à la chaîne. Nos séances duraient parfois des heures. L'un écoutait l'autre. Il y avait peu de conversations réelles. Je pense qu'il nous fallait quelques jours et quelques nuits sans nous voir pour que les paroles de l'un provoquent des paroles chez l'autre dont il lui rendait compte la séance suivante. Nous avions ainsi notre rythme de travail. C'est quelques jours après que je lui avais parlé du suicide de Jean-Christophe que Gênes m'offrit l'invention de Morel. Cela devrait te plaire. Le film s'est appelé « Pas mon genre ». Je l'ai tourné avec des acteurs portugais, entièrement à Lisbonne, qui est une ville magnétique et singulièrement humaine. Curieusement, les surréalistes français l'ont peu célébré. Il me semble pourtant que si le monde possède en quelques endroits le pouvoir de se retourner comme un gant, Lisbonne, à coup sûr, fait partie de cette géographie élective, pleine de passages, de corridors doubles, de cités secondes, de satin et de pierres blanches. Je pourrais, je crois, en dire du même de Montevideo que j'ai découverte plus tard, et aussi de Valparaiso. Nous étions au début des années 2000. Ce fut un tournage délicieux, avec une équipe des plus réduites et des comédiens merveilleux. Eugène venait souvent nous voir. Il arrivait le jeudi soir par le dernier vol et repartait le lundi matin. Il était amoureux cette année-là. Elle s'appelait Angelina. Elle travaillait chez un bottier, une Italienne avec un accent floral. Cela dura peu de temps, pas assez pour qu'il lui fît un enfant. C'était un été très doux, une fin d'été plutôt. Nous passions des soirées à boire du vigno verde dans les bouibouis du Bairro Alto, à grignoter de grosses olives violettes et à manger des sardines qui avaient cuit sur les grilles de petites cours intérieures aux murs tapissés d'azulejos. J'étais encore marié en ce temps-là. Florence se blottissait contre moi, un châle gris ramené sur ses épaules. Nous écoutions Eugène en souriant à la vie. Au ciel, il y avait des étoiles comme des yeux nous regardant. Nous habitions dans un appartement qui rappelait une vaste cellule de moine, aux murs badigeonnés de chaux, et dont le sol irrégulier était fait de pavés de terre cuite hexagonaux, couleur de lave. Un personnage du film s'appelait Jean-Christophe. Ce n'était nullement un jeune homme, mais au contraire un vieillard qui tenait une librairie de livres anciens. Je l'avais vêtu avec ma costumière comme l'était mon ami d'adolescence, chemise blanche très ouverte qui dévoilait une poitrine à la peau tavelée, couverte de fins poils gris, pantalon de toile noire. Jean-Christophe était devenu vieux. Grâce à moi, grâce au cinéma. Il lisait Proust et contait l'histoire de Morel à une jeune femme qui ne se savait pas aimée par un jeune garçon qu'elle croisait chaque jour quand elle se rendait à son travail. Pas mon genre est un film sur les voies parallèles, les corridors du temps. On s'y croise beaucoup, on s'y étreint peu. La ville et l'océan servent de repères éternels à des échanges fugaces. Les personnages s'attachent aux lieux, mais ceux-ci ont la beauté élégante et placide des indifférents. Personne ne meurt dans ce film, mais tout finit par disparaître, sauf la ville. Ce fut à Eugène et à moi notre plus grand succès public, ce qui est à nuancer immédiatement, car jamais nous ne connûmes de vrai succès. Disons que « Pas mon genre » ne fut pas un échec, et qu'il est parvenu à toucher une certaine catégorie de femmes et d'hommes qui, sans doute, comme nous, se souciaient du temps et de la vie, des nœuds et des boucles, des visages qui glissent et s'estompent, des voix qui résonnent et des souvenirs blessés qui jamais ne parviennent à s'apaiser ni à s'évanouir.